Merci d'être venu malgré le match de rugby. J'ai appris ce soir qu'il y en avait un. Et merci de venir assister à la conférence du mois de septembre. Je remercie aussi la municipalité qui nous a octroyé la salle, qui nous a prêté la salle. Et puis, le Pays Sud Toulousain, avec qui nous sommes en partenaire pour cette conférence. Nous sommes associés pour cette conférence. Un petit rappel, ou quelques petits rappels d'abord. Bon, j'ai ma feuille de notes, parce que la dernière fois que j'ai fait la présentation, j'ai oublié des trucs et je me suis planté. Alors maintenant, j'ai une feuille de notes. Je rappelle, mais ça, la plupart des gens qui ont l'habitude de venir savent que la Pup en Vol, petite université populaire en Volvestre, a pour but de diffuser, de faire des conférences touchant des domaines divers, que ce soit l'art, que ce soit la technique, que ce soit la science, le sport, etc. Et nous faisons une conférence par mois, le quatrième mercredi de chaque mois. La liste des conférences peut se trouver sur le site de la Pup en Vol, que vous trouvez sur Internet. En tapant Pup en Vol, vous arriverez à le trouver facilement. Les conférences à venir. Alors, le 28 octobre, il y a une conférence à Montesquieu sur les nouvelles formes du travail, et en particulier le télétravail. Le 15 novembre, une conférence sur la danse. Ah, celle sur le télétravail, elle sera faite par Dominique Valentin. Conférence sur la danse, faite par Cathy Pébès. Le 25 novembre, en novembre, il y a deux conférences, donc le 15 et le 25. Le 25 novembre, une conférence sur astronomie et calendrier, qui sera faite par Jean-Noël Sarraille. Comment ?
À quel endroit ?
C'est vrai, je n'ai pas noté, ce sera à Rieux, à Rieux-Volvestre, pardon. Une précision concernant le mode de fonctionnement de la Pup en Vol, enfin mode qui, dans le fonctionnement global, ça ne change rien, on est passé d'année scolaire en année civile pour les adhésions. Alors ceux qui ont pris leur adhésion maintenant verront leur adhésion courir jusqu'à fin 2016. Donc ils gagnent 3 mois, 4 mois. Les cotisations sont inchangées, 10 euros pour une personne, 15 euros pour le couple.
15 et 20.
Ah, je retarde. Heureusement qu'il y a des gens qui me corrigent. 15 euros pour un individuel et 20 euros pour le couple. Le fonctionnement, c'est 45 minutes de conférence et une vingtaine de minutes pour les questions. Et puis, partie non négligeable, après la conférence, on se retrouve autour d'une auberge espagnole à laquelle sont conviés tous les auditeurs de la conférence. Donc, tout à l'heure, on se retrouvera autour de plats préparés par les uns et les autres. Alors, ce soir, il y aura une conférence. Le titre, c'est « Le climat change ». Le climat change, c'est cette conférence part en grande partie de constatations du GIEC sur les modifications climatiques, que le climat change effectivement, que le responsable, un des grands responsables en est l'homme, et qu'il y a des choses que l'on peut faire. Cette conférence sera donnée par M. Dandin, qui est directeur adjoint du Centre national de recherche météorologique, Toulouse. Et puis, il y aura une intervention des techniciens du PST, M. Benoît Marty, responsable service énergie climat, Guy Esquèche. Si j'estropie les noms, faites-le moi savoir, s'il vous plaît. Chargé de mission de la plateforme de rénovation énergétique, et M. Arnaud Larvol, conseiller énergie. Voilà, je vais donc laisser la parole à M. Dandin. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci.
Bonsoir à tous. Je profite de cette magnifique salle et d'avoir une scène pour monter sur la scène, ce qui est toujours un plaisir et qui nous arrive très rarement. Alors, je vais basculer sur ma présentation. Voilà, le climat change. Bon, le titre étale les champs. Vous reconnaissez peut-être ici l'observatoire du Mont-Aigoual, donc qui est posé sur ce joli mont des Cévennes. Il y a d'abord ici une invitation à aller découvrir cet endroit qui est magnifique et qui est redoutable quand les éléments s'y déchaînent. Vous trouverez là-bas des expositions, vous trouverez beaucoup de choses sur la météorologie et sur le climat. Alors, on oppose classiquement météorologie, climat, le climat étant considéré sur des échéances de temps longues et la météorologie sur des temps plus courts. Vous verrez que ce soir, je vais vous parler de climat, de changement climatique, mais je vais également vous inviter à réfléchir sur finalement tout ce qui fait le temps au jour le jour, qui s'accumule semaine, mois, saison, année après année, décennie après décennie, jusqu'à faire le climat. Et ça sera peut-être une des pistes de réflexion pour cette fameuse et nécessaire adaptation au changement climatique. Alors je cherche un peu là-dessus actuellement à mes heures perdues. Je ne suis plus climatologue, j'ai dirigé des activités dans ce domaine à la météo depuis 2006, et puis depuis ces deux dernières années, j'ai rejoint les équipes de recherche où mon travail est d'accompagner les chercheurs. Alors parler du climat, ça me devient de plus en plus délicat, parce que évidemment vous n'échappez pas à cette déferlante d'information, cette déferlante médiatique. Et puis également, je pense que tous nos concitoyens, quel que soit leur rôle dans la société, aussi bien professionnel que civil, eh bien, sont de plus en plus alertés, en éveil, ou se posent des questions sur tel ou tel aspect du climat. Ce qui rend nos interventions plus délicates. Évidemment, parce que vous allez toujours avoir une question à laquelle je ne saurais pas répondre. Alors, vous voyez ici une débauche d'événements, d'annonces, de rapports, de colloques, de conférences, d'initiatives qui vous invitent au développement durable, à réfléchir au climat. J'en signale une, c'est un train du climat, ça s'appelle les messagers du climat, c'est une action qui a été montée par quelques-uns de nos collègues toulousains, et ce train va circuler à partir du 6 octobre de gare en gare, avec des expositions, des conférences, des rencontres avec le public. Le 13 octobre à Toulouse, si vous voulez faire un tour à Matabiau, vous aurez la crème des chercheurs français s'étant investis dans cette initiative. Alors pour commencer, quelques messages du GIEC. Et puis d'abord cette planche. Alors ce sont des documents d'archives. J'aime commencer les présentations sur le climat par ces planches. Ce ne sont pas des informations de météorologie. Il y a sur la gauche des dates de moisson de l'orge de printemps. Donc on parle de phénologie, c'est-à-dire la science de croissance des plantes, les différents stades de croissance des plantes. Et sur la droite, vous voyez, c'est le premier chant du coucou. C'est de l'ornithologie, sans doute. Donc ce sont des cartes qui ont été établies avec des observations faites à la fin du 19e siècle. Par nos prédécesseurs du service météorologique, c'est le bureau central météorologique. À l'époque, ces observations-là étaient engrangées en routine. Je montre ces planches pour vous dire plusieurs messages. D'abord, l'importance de l'observation. En géophysique, dans les géosciences, comme dans de très nombreux domaines scientifiques, il faut observer le système pour savoir ce qui s'y passe. Ce qui s'est passé dans le passé, et pour avoir une chance de comprendre le fonctionnement du système et d'envisager ses évolutions futures. C'est donc tout le travail que nous faisons en météorologie. Je vous montre ces planches aussi pour vous dire que nous avons la chance que ces observations aient été faites et que ces recueils d'informations aient été conservés et non pas versés aux bennes à ordures, comme ça a pu être le cas, et encore récemment. Donc aujourd'hui, on se bat Alors le on étant des collègues du CNRS qui étudient l'impact des évolutions climatiques sur la végétation, sur les forêts, sur les cultures, sur les écosystèmes. On se bat également pour recouvrer ces informations parce que pour certaines, ça peut ressembler un peu à un travail à la Indiana Jones. Il faut aller rechercher ces informations dans des conditions un peu rocambolesques parfois, quand on sait où elles sont. Et puis, le message principal que véhiculent ces planches, c'est de vous dire que c'est notre monde qui change. Ce soir, finalement, je vais vous parler très peu de météorologie au sens technique du terme, de climatologie au sens technique du terme. Je vais vous parler simplement de notre environnement. Simplement, je vais le faire avec mes connaissances, mes outils, mes clés de lecture, qui sont donc les paramètres, les phénomènes que brassent les météorologues chaque jour. Voilà. Alors, quelle conscience avons-nous de ces évolutions? Si nous sommes citadins, habitués à un environnement qui a été découplé de la nature, si nous sommes au contraire ruraux ou néo-ruraux, sommes-nous capables de voir ces évolutions, de les percevoir dans notre environnement? Sommes-nous capables d'intégrer dans notre chair, j'allais dire, les évolutions? C'est très difficile, et c'est pour ça que dans un deuxième temps de la présentation, si je ne déborde pas trop des minutes qui sont permises, je vous parlerai de ces réflexions sur le lien entre le court terme, la météorologie, et le long terme, le climat. Vous voyez, aujourd'hui, il ne faisait pas très beau. Si je vous dis plus de degrés, je suis sûr que tout le monde signe pour plus de degrés demain. Bien évidemment, quand on dit qu'il faut limiter la croissance de la température globale annuelle de la planète à plus de degrés, on ne parle pas des mêmes 2 degrés. Donc on a des questions qui sont fondamentales également, non seulement de science, mais en tout cas de science de l'information, de la façon dont on présente ces informations, dont on les véhicule. Et c'est pour ça aussi que je vous montre le chant du coucou, la moisson de l'orge. C'est pour parler en termes d'impact et d'effet de ces évolutions climatiques sur notre environnement, nos sociétés, sur nous. Il ne s'agit pas de sauver la planète, il s'agit de continuer à faire fonctionner les sociétés avec un équilibre relatif qui a été gagné au fil des siècles et tel que nous les connaissons maintenant. La planète en a vu d'autres. Alors la source de référence, c'est ce fameux GIEC. Alors le GIEC, c'est un mécanisme intergouvernemental, c'est-à-dire que ce sont aussi les diplomates qui, in fine, au nom des gouvernements, entérinent les rapports que produisent ces groupes de travail du GIEC. Mais le GIEC, en gros, c'est l'écrémage régulier, systématique, de toute la littérature scientifique, donc avec des standards de qualité qui sont très élevés, de ce qui est produit en termes d'informations sur le climat, avec trois volumes dans chaque rapport. Vous voyez que c'est assez récent, créé en 88 par l'ONU, l'Organisation Météorologique Mondiale, et le programme des Nations Unies pour l'environnement. Donc des rapports qui arrivent tous les 4 ou 5 ans, qui sont ventilés en trois volets. Un volet sur la physique du climat, qu'est-ce qu'on observe et qu'est-ce qu'on prévoit comme évolution. Un deuxième rapport sur les impacts, quels sont les impacts de ces évolutions constatées dans les domaines sanitaires, dans le domaine de l'hydrologie, quels sont les impacts sur l'alimentation, sur la végétation, etc., etc. Et un troisième volet qui s'intéresse à la dimension économique, bon, je simplifie un peu, à la dimension sociale, économique, et sur la capacité que l'on peut avoir au niveau planétaire, au niveau des nations et au niveau des collectivités pour agir sur ce changement climatique et se prémunir de ces effets adverses ou bien tirer parti de ces effets bénéfiques. Puis il y a des sujets qui sont traités épisodiquement sur des questions à enjeu, comme par exemple la géo-ingénierie, c'est-à-dire peut-on agir sur la planète pour essayer de contrecarrer les effets du réchauffement climatique. Ce sont des choses dont on parlera de plus en plus. Ce sont des éléments auxquels les laboratoires français se préparent également pour pouvoir un jour donner des éléments à nos négociateurs dans les conférences internationales. Des choses sur l'énergie, sur évidemment la transition énergétique, et puis des choses sur l'impact sur la ressource en eau, etc. Donc des rapports ciblés sur des thématiques très précises. À chaque fois, ce sont des milliers de pages, ce sont des volumes d'informations très conséquents, et donc j'en ai extrait, en fait non pas des volumes, mais des résumés qui ont été faits pour les décideurs, les planches qui suivent. Alors, vous verrez beaucoup de cartes, voici une carte du monde, vous distinguez les Amériques, l'Afrique, l'Europe, l'Eurasie, l'Océanie. Ce sont les tendances de température sur le siècle passé. Donc en degrés, vous avez des évolutions dans le rouge qui sont de l'ordre du degré en un siècle à peu près, voire un petit peu plus par endroit. Ce sont, une fois encore, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, des chiffres qui parlent assez peu. Un degré, bon, et alors il ne faut surtout pas que je touche au système électrique. Donc un degré, me direz-vous, et alors? Alors voilà, on commence là à se poser des questions sur les perspectives, les ordres de grandeur qui sont associés à ces valeurs. Dernière transition du climat glaciaire au climat interglaciaire que nous connaissons, c'est à peu près 4 degrés, avec des variations de l'ordre de 1,5 degré en 1000 ans. Donc déjà, même si ce chiffre de 1 degré ne parle pas, le fait qu'il se situe sur une plage temporelle de l'ordre de la centaine d'années, c'est un rythme sans précédent. Alors évidemment, ça c'est de la température. Il y a une quantité d'autres indicateurs qui nous disent qu'il se passe quelque chose. Je vais vous en montrer quelques-uns. On arrive également à montrer que tout ça est une évolution qui se fait finalement assez peu régulièrement, parce que le système est compliqué, les océans, la végétation, les glaces, tout interagit ensemble, et il y a une respiration naturelle du système climatique planétaire qui fait que vous allez avoir des périodes plus ou moins de croissance rapide de la température, vous allez avoir des différences entre les continents et les océans, vous allez donc avoir des différences entre les hémisphères, puisque l'hémisphère austral est quand même beaucoup plus océanique, l'océan absorbe de la chaleur, il joue un rôle de tampon. Cette chaleur, elle se répand dans l'océan. Voilà. Donc tout ça augmente. On le voit au fond de l'océan, on voit la température augmenter. On le voit sur les surfaces continentales. Et on les voit dans tous les domaines que j'ai évoqués précédemment, les écosystèmes, les forêts, etc. Alors, il ne suffit pas de voir quelque chose pour attribuer cette évolution à l'action de l'homme. Il y a évidemment toute une mécanique de démonstration qui permet de trier entre ce qui relève de ce qu'on appelle dans notre jargon la variabilité naturelle du système. Le climat change, c'est le titre de la présentation. Le climat change de façon naturelle et de façon, cette fois-ci, aujourd'hui, en ce moment, et depuis quelques décennies, stimulé par l'homme. Alors, deux actions vitales à mener. La réduction de ces fameux gaz à effet de serre dont vous avez forcément entendu parler, et qui sont l'ingrédient du mécanisme physique qui entraîne ce réchauffement de la planète. L'effet de serre, c'est un effet naturel. C'est le fait qu'on ait des espèces chimiques, des molécules, dont la vapeur d'eau, dont le gaz carbonique, le fameux gaz carbonique, dont le méthane et d'autres espèces, qui font autour de la planète l'effet d'une serre. Donc le rayonnement solaire, la chaleur du soleil qui chauffe la Terre, est reflétée la nuit par la Terre vers l'espace. Et s'il n'y avait pas cette serre au-dessus de la Terre, eh bien une très grande partie de la chaleur, une plus grande partie de la chaleur repartira vers l'espace. La serre, ces gaz qui sont dans l'atmosphère, renvoient une partie de la chaleur rayonnée la nuit vers la planète, et ainsi s'établit un équilibre qui fait que la température moyenne de la Terre est ce que nous connaissons, que la Terre est vivable. Sans l'effet de serre, on serait à une température moyenne qui serait négative, très fortement négative, alors qu'elle est très fortement positive aujourd'hui. Donc finalement, l'homme, par son action, a ajouté de ces fameux gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et son action, c'est principalement la combustion des énergies fossiles, la déforestation, des choses qui rajoutent beaucoup de molécules de ces gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc première action, on évite d'en rajouter. On essaye de diminuer ces émissions de gaz à effet de serre. Et donc on va vers une transition, vers un nouveau mode de production d'énergie. On va vers des habitations, on va vers des transports qui doivent être beaucoup plus économes en énergie afin de limiter les émissions dans l'atmosphère. Par ailleurs, le système planétaire a cette caractéristique terrible qu'il a une grande inertie. Ces gaz à effet de serre, pour certains, ont également des durées de vie très longues. Et ils ne retombent pas à la surface de la Terre très vite. Ils ne sont pas piégés dans des puits. Donc, le climat a commencé à évoluer et le climat va continuer d'évoluer. Ça veut dire que nous devons nous préparer à une nouvelle donne climatique avec des manifestations au jour le jour d'ordre météorologique qui seront des événements extrêmes ou pas, mais enfin des changements dans les habitudes climatiques que nous avons. Les moyennes changent, la température a déjà augmenté, elle continuera d'augmenter. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'adaptation. Donc vous avez un effort de réduction et un effort d'adaptation. S'adapter, c'est quoi ? Eh bien, c'est d'avoir des habitats qui vont être capables de faire face à des fortes températures l'été. Mieux qu'aujourd'hui. Très vite, des graphiques, comme vous en verrez sans doute beaucoup, ce sont des graphiques d'évolution temporelle. Donc là, on se situe typiquement sur un peu plus d'un siècle. On voit tout en haut à droite la neige dans l'hémisphère nord au printemps. Tout en haut, deuxième planche, c'est l'étendue de glace dans l'océan Arctique, donc la banquise à la fin de l'été. Alors, chaque fois, fin août, début septembre, maintenant, c'est comme un marronnier qui revient dans la presse et on vous donne le record battu l'année précédente. Donc ça baisse, ça baisse, ça baisse. Le contenu thermique de l'océan superficiel, l'océan a emmagasiné 90% de la chaleur supplémentaire introduite dans l'atmosphère depuis que l'homme a commencé à injecter massivement ses gaz à effet de serre. Et en réponse à ça, il y a un niveau moyen de l'océan qui monte, mesuré par des marégraphes, mesuré par satellites. On a une très grande confiance là-dedans. Il y a notamment des équipes toulousaines qui sont très pointues au niveau mondial sur ces questions-là. Et les chiffres de projection vers le futur du niveau de montée du niveau de la mer, qui figurent dans le rapport du GIEC, sont déjà dépassés par les nouvelles estimations qui sont faites. Donc ça va très très vite, et les chiffres que l'on annonce sont pas loin du mètre, en fait. Alors là aussi, un mètre, bon, bah, quand on conçoit un mètre, de vous à moi, il y a plusieurs mètres. Un mètre de niveau de la mer, c'est des catastrophes en chaîne sur les équipements littoraux, sur les grandes villes de bord de mer, les zones de delta, etc. etc. Alors vous avez ici une courbe qui est intéressante, c'est de la température, année après année, depuis 1850 jusqu'à maintenant. Et vous voyez cette croissance, hein, à partir des années 1900 à peu près, qui est assez importante, mais avec des irrégularités. Alors, on a entendu parler récemment d'un plateau, d'une temporisation. Donc là aussi, à chaque fois qu'il y a une question qui est posée de la sorte, eh bien, les équipes de chercheurs se mettent au travail. Et à chaque fois qu'on ouvre une porte, finalement, en recherche, on en a trois suivantes qui posent des questions et qui vous ouvrent des possibilités de réflexion. Ce que vous voyez en dessous, c'est la même courbe que celle qui est au-dessus. Et c'est une courbe qui a été lissée en faisant des moyennes sur 10 ans. Donc c'est une courbe lissée avec des moyennes décennales. Et ce que vous voyez, c'est que évidemment on enlève cette très haute fréquence. C'est un peu, ça serait le cours de la bourse par exemple, mais vous le lissez sur une période longue. Et c'est ça le climat. Une période de 10 ou 20 ou 30 ans, ça vous donne des caractéristiques de climat. On avait l'habitude de calculer le climat sur 30 ans. Bon, ben aujourd'hui, quand on prend 0,1 degré par décennie, c'est quelque chose qui est plus délicat. Donc On a pris l'habitude de faire des moyennes pour le climat sur 10 ans, tellement ça va vite. Vous voyez cette hausse vertigineuse par moment. Vous voyez également des sortes d'oscillations. Hein, si on oublie la pente, vous voyez des oscillations. Ben ça, sont des oscillations naturelles du climat, de la planète. Le climat varie à des échéances qui sont décennales ou pluridécennales. Ce sont des choses qu'on a du mal à comprendre parce qu'on manque d'observation, on manque de recul historique pour aller comprendre les compartiments du système planétaire qui forcent ces oscillations à échéances décennales. Notamment ce qui se passe dans l'océan et ce qui se passe dans l'océan profond. Vous voyez, enjeu d'observation, ça coûte très cher, il faut envoyer des bateaux à l'autre bout du monde, dans l'océan austral, envoyer des capteurs au fond de l'océan, faire des mesures et y retourner l'année suivante, l'année d'après, et tout ça sur le long terme. Ça, c'est un véritable enjeu. Bon, je passe très vite. Si je prends un peu plus de recul, 2000, 1600, 1200, l'an 1000, voilà le Moyen-Âge, avec des périodes pareilles d'oscillations, avec des... Alors, on détecte des périodes un peu plus favorables, des périodes un peu plus favorables, et vous voyez des oscillations qui se situent non plus à échelle décennale, mais là, on est vraiment sur des oscillations pluridécennales. Et si on continue comme ça à plonger dans l'histoire du climat, en reculant, eh bien, on arrive à des échéances, mon graphique pourrait faire 1 million d'années. 1 million d'années, c'est à peu près la limite de capture d'informations de ce qu'on réussit à faire en faisant des carottes de glace en Antarctique et en analysant les couches qui se sont accumulées année après année et qui, chacune, ont emprisonné des bulles d'air desquelles on est capable de remonter au climat, hein, avec des analyses d'isotopes. Alors, je vous montre ça simplement pour dire que, observation n'est pas raison. Il faut comprendre ce qui se passe. Il ne suffit pas d'observer une croissance pour dire c'est du changement climatique et c'est la faute de l'homme. Là encore, il y a toute une partie de la communauté scientifique qui travaille sur ces questions qu'on appelle de détection-attribution et qui apporte la preuve que l'homme est en train de rajouter dans ses signaux naturels de variation du climat quelque chose qui se passe à un rythme et avec une amplitude qui est jamais vue. Alors, pour vous dire aussi que la Terre est en déséquilibre aujourd'hui, on le sait, dans le passé, elle a été déjà aussi chaude. Des passés, une fois encore très lointain, où il n'y avait pas d'animaux nous ressemblant sur Terre, le niveau marin était d'environ, bon, alors il y a des valeurs, il y a des plages de valeurs, mais environ 8 mètres plus haut, quelques mètres plus haut. Et ça, c'est quoi? Ben, c'est le signe qu'on a encore dans le système terrestre, et notamment ce sont les calottes polaires, les calottes du Groenland, les calottes d'Antarctique, qui sont des masses de glace considérables, et en équivalent de niveau d'eau, ben, ça vous fait des mètres et des mètres d'eau. Alors on sait que le système est en déséquilibre, ça prend des centaines et des centaines et des centaines d'années, voire des milliers d'années, mais ça fond. Et ça fond plus vite qu'on l'imaginait. On pensait que récemment encore l'Antarctique ne fondait pas, en fait l'Antarctique fond aussi. Mais il y a tellement de mécanismes qui viennent se superposer qu'il est difficile sur des temps d'observation qui sont relativement courts de désemmêler, de démêler tous les phénomènes qui sont en jeu. Je vous en cite un seul, moi, qui me plaît beaucoup, parce que c'est quelque chose que tous les mécaniciens connaissent, les mécaniciens auto, etc. C'est la lubrification des glaciers qui glissent vers la mer. Ça va plus vite que ce qu'on avait imaginé il y a une décennie. Et en fait, c'est simplement que la glace fond, l'eau réussit à aller tapisser le substrat rocheux, puisque les glaciers sont posés sur la roche, et ça facilite le glissement du glacier vers la mer, qui va plus vite vers la mer, et donc qui fond plus vite. Bon, voilà, le travail de la science, c'est d'intégrer, de comprendre ces mécanismes, de les quantifier, sont-ils importants ou ne le sont-ils pas, et puis de les intégrer progressivement dans les outils de modélisation qui servent à représenter le climat. Bon, très court, parce que je sors de mon domaine, vous trouvez ça dans tous les rapports, et c'est des choses dont on parle, c'est les effets visibles dans les différents domaines, glaciers, neige, la fonte du permafrost dans les zones périarctiques, les eaux qui se réchauffent, les rivières, les littoraux, les océans, les écosystèmes qui sont touchés, Ils peuvent être terrestres, marins, les feux de forêt, la production agricole, l'alimentation, etc., etc., etc. Donc, il y a un faisceau d'indicateurs qui est extrêmement convergent aujourd'hui, et il n'y a plus de doute. Voilà. Alors, on nous dit qu'il faut positiver sur tout ça, qu'il y a des bénéfices à trouver dans l'évolution climatique. Certes, sans doute, mais c'est une déstabilisation complète du système. Le système étant la planète avec les sociétés qui y vivent et qui sont en articulation les unes avec les autres. Je ne rentrerai pas trop dans ces considérations, mais la vraie difficulté pour nous, c'est que tout est acclimaté. C'est un mot qu'on a oublié, mais on est acclimaté, une espèce végétale est acclimatée, une population est acclimatée à son environnement. Si on désarticule un petit peu tout ça, eh bien ça donnera des choses très difficiles à gérer. Donc plus on attend, plus ça va être lourd à gérer. Le message du GIEC, c'est qu'on peut agir, mais il faut le faire vite. Alors bon, voilà un crobard un peu compliqué à lire, mais j'aime bien parce qu'il y a des papillons, des oiseaux, des rennes, des arbres, de la végétation. Vous avez en gros les évolutions, les vitesses auxquelles ces différentes espèces sont capables de, on va faire simple, de migrer vers le nord. Puisque en fait tout se réchauffe, c'est un peu comme si on avait des conditions du sud qui remontent vers le nord. Bon, bah les grands animaux arrivent à courir et se déplacent, et déplacent leur nichée année après année, ou décennie après décennie. Pour les chênes, évidemment, c'est un petit peu plus difficile de courir. Et vous avez ici en regard les différentes vitesses de propagation vers le nord de ce réchauffement climatique, avec des couleurs différentes qui sont liées aux différentes hypothèses que l'on doit faire sur l'avenir, aux différentes options que va prendre l'humanité quant à sa capacité à réduire ses émissions de gaz à effet de serre, dont je parlais tout à l'heure. Alors, pour vous donner des ordres de grandeur, 1 degré dans le climat français, c'est environ 200 km en nord-sud. D'accord ? Donc, si on a gagné 1 degré sur le XXe siècle, ça veut dire que, grosso modo, vous ne m'en voudrez pas pour les approximations, mais le climat toulousain se retrouve, du début du XXe siècle, se retrouve aujourd'hui à Limoges. Alors voilà, donc les projections climatiques, elles se basent sur des hypothèses d'émission de ces fameux gaz à effet de serre. Vous avez ici des gigatonnes de carbone émises par l'homme et par année. Alors cette fois-ci, on a quitté les gammes de temps du passé que je vous montrais précédemment. Vous êtes ici au présent, 2000 à peu près ici, voilà, 2014. Et on se projette dans le XXIe siècle. On émet des gigatonnes de carbone depuis des années et des années, elles sont là, elles s'accumulent. On n'a jamais autant émis que l'année 2014. Alors il y a eu peut-être une petite inflexion, mais en tout cas pour l'instant l'humanité n'apprend pas. Et de rapport du GIEC en rapport du GIEC, on est toujours sur l'hypothèse la plus pessimiste du rapport précédent. En termes d'émissions, évidemment, comme il n'y a pas de miracle, en termes de réponse du système planétaire. Alors les voici les scénarios pour le futur. Un scénario pessimiste, c'est comme avant, business as usual, diraient les Anglais. Alors, dans notre jargon, RCP 8.5. On continue à émettre, on roule en 4x4 pour aller acheter notre baguette de pain, on pollue autant qu'avant. On ne change pas. Toute une gamme de scénarios avec des approches un peu alternatives sur l'énergie, sur les comportements, sur le... à notre échelle de citoyens français, également à l'échelle internationale, de partage des technologies, d'aide entre les pays du Nord et les pays du Sud pour faciliter une action résolue des pays les plus pauvres qui eux aussi aspirent au développement pour se développer, mais en étant plus respectueux et en particulier en brûlant peu de carbone. Et puis vous voyez ici un dernier scénario qui est un scénario... qui est une volonté politique de dire on doit montrer ce qui peut se passer si on réduit drastiquement nos émissions. Vous voyez qu'on est quasiment à zéro à la moitié du siècle, et on passe même en dessous de la ligne du zéro à la fin du XXIe siècle. Ça signifie qu'on capture du carbone. Ça veut dire qu'on a trouvé des technologies pour attraper du carbone qui est présent dans l'atmosphère, ou dans les océans, ou je ne sais où, et le stocker sous une forme durable et n'étant pas un gaz à effet de serre. On peut faire avec le carbone, on peut faire du diamant. par exemple. Mais alors il faudra de l'énergie, il faudra des solutions technologiques, il faudra inventer les solutions. Le futur est donc dépendant de ces scénarios. Et notre travail, nous, climatologues, c'est de prendre ces scénarios qui nous donnent des concentrations de gaz à effet de serre et d'utiliser les outils de modélisation du climat qu'on affûte sur les données du passé pour faire des projections climatiques. Donc quand vous entendez parler des scénarios climatiques, des projections climatiques, c'est ce travail-là. Alors voilà ce que ça donne, température du globe en moyenne annuelle, 1950, 2000, 2050, 2100. Vous voyez ici l'évolution qui est en fait la courbe que je vous montrais dans les premières planches de la présentation. Et vous voyez ici la projection pour le scénario optimiste qui limite l'évolution de la température du globe en moyenne annuelle à plus de 2 degrés, qui est ici. Et vous voyez en rouge le scénario pessimiste qui nous emmène en moyenne annuelle globale à quelque chose de l'ordre de 4 degrés pour... Alors, quel est ce nuage de points rouges là autour de du trait? En fait, ce sont les différentes équipes de modélisation du climat qui, à travers le monde, arrivent à des résultats, certes convergents, mais avec des incertitudes les uns par rapport aux autres, des plages de variations les uns par rapport aux autres. Voilà, en gros, c'est 4 degrés. Le mot d'ordre de la conférence sur le climat qui aura lieu à la fin de l'année à Paris, c'est « nous devons tout faire pour limiter la croissance du globe à plus 2 degrés ». Une fois encore, plus 2 degrés demain, vous signez tous. Mais là, on parle de choses qui sont quand même dramatiques. L'amplitude de ça, c'est des choses considérables. Si je vais zoomer sur la métropole, sur la France, donc on utilise des outils de modélisation focalisés sur le pays, à gauche en hiver, à droite en été, pour des saisons. Donc, non seulement j'ai fait un rapprochement géographique, mais j'ai également fait un rapprochement en différenciant l'hiver et l'été. Je ne fais plus la moyenne annuelle. Eh bien, vous voyez qu'en été, par exemple, dans le scénario pessimiste, on est autour de plus 6 degrés. Donc déjà, la moyenne à 4 degrés, elle va plus haut. Tout ça pour vous dire que plus on va zoomer localement, plus on va se rapprocher localement et regarder sur des échéances de temps courtes, évidemment, on va avoir des amplitudes très élevées. 2 degrés en moyenne annuelle à la surface du globe, c'est quelque chose qu'on n'imagine pas en pensant à la météorologie. Alors en 2003, on a eu une forte canicule pendant l'été. Le 12 août à Paris, bon, j'aurais dû prendre les valeurs pour Blagnac, une température minimale considérable, 25,5 degrés. Il faut savoir que notre physiologie, on est acclimaté à un climat où il nous faut des températures de l'ordre de, enfin, inférieures à 23 degrés la nuit pour qu'on puisse vraiment se reposer, se requinquer et repartir le lendemain. Quand vous avez des nuits à 25 degrés, vous ne vous reposez pas. Évidemment, les nourrissons, les personnes âgées, les personnes fragiles subissent davantage. Mais c'est la température minimale qui a tué en 2003. C'est 15 000 morts, la canicule. On n'était pas du tout adapté. En France, l'été 2003, par rapport au climat standard des années précédentes, 61-90, c'est une anomalie de 4 degrés et quelques. Si vous calculez l'anomalie rapportée à l'année pour la France, ça n'est plus que 1,7 degré. Et si vous regardez l'anomalie en 2003 dans le monde, qui a été une année chaude, on est en dessous de 0,5 degrés d'anomalie. Voilà. Alors, ça ne prétend pas vous dire que 2 degrés, on va multiplier tout ça par 4, bien évidemment. Mais ça vous donne un peu une idée des perspectives qui sont en jeu. Donc, dites-vous bien une chose, 2 degrés en moyenne globale à la surface du globe, c'est un défi considérable pour l'humanité tout entière. Je n'ai pas d'image pour ça, et on cherche des choses. Mais si certains d'entre vous ont déjà eu de la température, bah 37 et quelques, tout va bien. À 39, on a de la fièvre. À 42, on est... Voilà. Je pense que c'est un peu l'analogie que je pourrais faire. Bon, vous avez plein de chiffres sur les projections. Tout ça progresse. Des impacts dans tous les domaines avec des risques de rupture. si on cantonne tout à 2 degrés, on entrevoit à peu près les conséquences, et encore pas dans tous les domaines. Évidemment, il y a des choses qui sont très éloignées des questions d'ordre physique, hein, qui sont des questions politiques, géopolitiques, etc. Je ne suis pas compétent là-dessus, mais vous voyez suffisamment d'actualité pour imaginer ce que ça peut donner. En revanche, si on monte, et c'est un peu l'esprit de ces graphiques, si on monte le thermomètre au-delà de 2 degrés, on rentre dans des couleurs où en fait on ne maîtrise plus rien. On ne sait pas ce que ça va donner. Et en tout cas, on ne sait pas le coût qu'on peut chiffrer en euros, en dollars, en ce qu'on veut. Mais il y a aussi des coûts qu'on ne peut pas chiffrer. Alors il faut s'adapter, il faut imaginer d'autres possibles, il faut tenter des choses d'ores et déjà. Hein, parce que nous, on raisonne peut-être, allez, on vit au jour le jour, peut-être qu'on a un emprunt sur quelques années. Les forestiers, eux, pensent long terme, par exemple. Et aujourd'hui, ils sont désemparés parce qu'ils voient la forêt évoluer, s'abîmer, et ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire dans le futur. Enfin, ce qu'ils doivent faire maintenant pour avoir des réponses dans le futur. Très vite, j'ai mangé tout le temps, je suis désolé. Vous pouvez voir ces évolutions sur des sites que notre communauté scientifique a mis en place pour que vous puissiez aller regarder sur votre région les évolutions que l'on calcule aujourd'hui. Hein, c'est notre meilleure réponse possible. C'est DRIAS, drias-climat.fr. C'est très facile d'accès, ça donne accès. Le but de ça, c'est de donner accès à une quantité d'acteurs qui doivent se pencher sur les scénarios climatiques pour réfléchir à la vulnérabilité de leur activité et à ce qu'ils pourraient faire pour s'adapter. Là, en avant-première, j'ai violé toutes les consignes d'embargo. C'est un site que Météo France va lancer dans les jours qui viennent. Donc, c'est mettre en regard le passé et le futur. Alors, j'ai violé l'embargo parce que c'est moi qui ai lancé tous les travaux qui sont derrière ça et qui visaient à recollecter de la mémoire du climat passé. Donc, se battre pour récupérer ces observations anciennes, ces documents anciens, etc. etc. Donc, vous verrez des évolutions. Je vous montre là encore. Oups. Je vous montre sur une évolution à Blagnac depuis 1947, l'après-guerre. Vous voyez qu'on était dans des gammes plutôt en dessous des moyennes qu'on a aujourd'hui, et puis après on passe au-dessus. Bon, ça c'est la croissance des températures. Et puis vous voyez ici, peut-être pas très bien, mais en gros du rouge au sud de la France, du vert au nord. Et ça c'est l'évolution des précipitations, des pluies. Plutôt plus de pluie dans le nord, plutôt moins de pluie dans le sud en moyenne annuelle. Ce sont des résultats qu'on avait déjà, mais là qui sont confirmés avec une densité et une qualité des calculs qui sont impressionnants. Voilà. Bon, les impacts, des travaux qu'on a présentés récemment, qui ont été faits sur la végétation, donc début de végétation. Donc ce que vous voyez, c'est un effet nord-sud qui est assez net. Là, c'est des céréales à paille, c'est du blé. Et puis, bon, début de végétation, fin de végétation, je vais très vite. Évidemment, on fait plein de choses sur les forêts avec nos. Alors, quand je dis on, c'est avec les collègues compétents dans le domaine, l'INRA, l'ONF, le CNPF, etc. Bon, vous êtes toujours à bord, mais il est très tard. Ça, c'était pour vous dire plus de degrés demain matin. Donc, surtout, sortez avec cette idée en tête que plus de degrés, quand on vous parle de climat, ben, c'est vraiment autre chose que les plus de degrés que chacun souhaite pour demain matin. Je ne m'aventure pas à vous amener la prévision pour carbone. Si, en fait, elle est là, mais. Elle est en tout petit pour... Ah non, c'est pour aujourd'hui. Voilà, c'est plus facile. Voilà. Je vais terminer avec cette dernière planche pour vous dire que le climat, c'est vraiment quelque chose qui est une notion difficile à faire passer. Et on cherche aussi sur ces questions de représentation et de message. Donc ça fait appel à d'autres sciences que les nôtres. On a besoin de spécialistes en question info, communication, en psychologie, en sociologie, etc. C'est très difficile d'expliquer à nos concitoyens que l'année 2014 a été la plus chaude en France jamais enregistrée. Vous avez ici le top 15 des années les plus chaudes jamais enregistrées en France. Alors bon, on sort des chiffres à peu près jusqu'à 1900 maintenant. On est en train de remonter un peu plus loin sur certains sites, mais Voilà, c'est ça. 2014, 2011, 2003, 2006, 1994, 2002, 2097. C'est une litanie assez impressionnante. Et pourtant, si vous avez passé vos vacances pendant l'été 2014 et que vous vous soyez retrouvé sous ce parapluie et à grelotter de froid, parce que les anomalies en 2014, les gouttes froides qu'on a eues, les anomalies froides, sont intervenues pendant l'été. Pas de chance. Hein, pas de chance. Bon, j'arrête, mais je reviendrai là-dessus, si vous voulez, pendant les questions. Parce que cette imbrication entre climat et météorologie, les tendances qu'on observe, mais la très haute fréquence météorologique qui se superpose à ça, ça rend très difficile l'exercice d'adaptation. Je donne un exemple, si dans le Lauragais, ça n'est plus le blé qui s'avère être la céréale pertinente dans quelques décennies, faudra-t-il mettre du sorgho, du mil ? C'est une question pas évidente, parce que sur la base de la moyenne climatique, on pourrait décider qu'il faut mettre une céréale venant d'ailleurs, ou une variété génétique différente, ou etc. Mais vous aurez toujours ces à-coups avec des années avec et des années sans, qui vont rendre très difficile la capacité de cette nouvelle culture à survivre à un mauvais hiver, par exemple. Et donc, c'est toutes ces échéances temporelles de la météorologie, des années avec, des années sans, des jours qui se suivent, qui ne se ressemblent pas, et cette tendance forte qu'il faut concilier pour réfléchir à l'adaptation dans plein de domaines, c'est un exercice d'une redoutable complexité. Il faut tout intégrer. Et ça veut dire quoi ? Ben, ça veut dire qu'il faut faire des expériences. Il faut commencer à essayer de s'autoriser des chemins de traverse. Ça, on le voit déjà en milieu agricole, dans certains milieux agricoles, où on fait du sylvopastoralisme, on fait des approches un peu différentes. On accepte d'avoir peut-être sur la durée un peu moins de rendement, mais on encaisse les à-coups climatiques ou météorologiques d'une bonne année ou d'une mauvaise année. On lisse, en fait. Alors, c'est très difficile parce que toutes les activités économiques sont prises dans des filières. Il faut donc que toutes les filières bougent. Et au bout des filières, il y a nous, les consommateurs. Donc vous voyez qu'on est, on n'est pas totalement indépendant de la chose, on est acteur, et ça, Benoît va bien le dire, mais on est également consommateur, et on doit permettre que des nouvelles formes de marchandises, de production, nous soient livrées et les accepter. Bon, là, je sors un peu de mon domaine de compétence, j'ai même enlevé ma casquette de Météo France, et je vous parle en tant que concitoyen. Bon, ben j'arrête là. Je suis confus parce que j'ai mangé tout le temps qui était imparti. J'espère que vous ne m'en voudrez pas.
Énergie climat. Donc, suite à la présentation de M. Dandin, on a vu que le climat change, se réchauffe. On parle souvent de dérèglement climatique et on parle également généralement d'un problème global avec des solutions qui peuvent se traiter localement. C'est pour ça qu'en local, les élus du pays sud-toulousain, donc le territoire où vous avez ces limites-là, ont décidé en 2009 de se lancer dans une démarche qui s'appelle le plan climat-énergie. Et donc, c'est un dispositif qui regroupe 99 communes pour cette intercommunalité et 93 000 habitants. Donc, on a un objectif global au niveau du pays sud-toulousain, c'est de se lancer dans une démarche de territoire à énergie positive, territoire qui est du coup labellisé par le ministère et par Madame Royal depuis quelques mois. L'idée, c'est d'arriver avant 2050 à consommer moins d'énergie sur le territoire et surtout que cette réduction de consommation énergétique soit comblée par des productions à local. Généralement, on parle d'un triptyque qui est le triptyque mégawatt, à savoir consommer moins, consommer mieux, c'est-à-dire pour le même usage, utiliser des process ou des équipements qui consomment moins d'énergie, et in fine, pour les besoins en énergie qui ne peuvent pas être réduits, les couvrir par des énergies renouvelables. Donc, de fait de cet objectif de territoire à énergie positive, le pays a mis en place un programme d'action qui est décliné autour de 7 axes. Les 6 premiers axes sont des axes dits d'atténuation, donc M. Dandin l'a bien développé tout à l'heure. On va essayer de réduire les émissions de gaz à effet de serre au niveau local. Et le septième axe, est un axe dit d'adaptation au changement climatique, c'est-à-dire que le processus est en cours. Il va être difficile à enrayer. Donc comment est-ce qu'aujourd'hui, par le biais de nos documents d'urbanisme, par le biais de la conception de nos bâtiments, par le biais de leur rénovation, on met en place des stratégies pour permettre à la population de vivre dans des conditions le plus confortable possible, j'allais dire acceptable, ce changement climatique. Donc, à niveau local, on a mis en place des actions. La première action, c'est un espace info-énergie, donc une mission de conseil auprès des particuliers sur tout ce qui est consommation d'énergie dans le bâtiment. Il y a tout ce qui est isolation et système de chauffage, par exemple. Donc là, on s'arrêtait au conseil, et voyant que le conseil n'était pas suffisant, on a décidé de lancer ce qu'on appelle une plateforme locale de la rénovation énergétique, pour laquelle on est soutenu par l'ADEME et qui est mis en place depuis le mois de juillet de cette année, donc c'est tout récent. Donc la plateforme de la rénovation énergétique, comme dit le sous-titre, c'est votre service public de la rénovation énergétique. L'idée, c'est qu'au niveau du territoire, on a de côté 30 000 logements qui datent d'avant 1990, donc qui sont considérés comme des logements énergivores s'ils n'ont pas été rénovés, et de l'autre, des artisans du bâtiment, 900. Et l'idée donc de ce dispositif, c'est de créer un cercle vertueux autour d'une activité économique qui serait localisée sur le territoire. Donc je vais m'arrêter là et laisser la parole à Guy, mon collègue, qui lui est plutôt en charge de cette opération, qui va vous dire concrètement ce qu'il en est.
Merci Benoît. Donc Guy Esquet, Donc je travaille avec Bonhomme Arti, je suis en charge plus spécialement de la plateforme de la rénovation énergétique. Alors on est bien ici dans les deux domaines que sont l'atténuation et la datation. Atténuation parce qu'avec en rénovant le bâtiment, on va limiter les émissions de gaz à effet de serre. Donc du fait, on va atténuer le changement climatique à notre petit niveau, mais tous les efforts conjugués vont permettre, on espère, d'atténuer le changement global. Et dans la datation, puisqu'on va essayer d'aider les habitants du PSU toulousain, en fait, les 93 000 habitants, à rénover leur logement de manière efficace et en consommant beaucoup moins d'énergie. Donc ce service a démarré il y a 2 mois. Voilà. En gros, c'est quoi une plateforme de la rénovation énergétique? C'est un dispositif d'accompagnement du particulier global. On prend le particulier au début du conseil et on l'amène à travers des dispositifs financiers, à travers la mise en relation avec des professionnels, on l'amène jusqu'à la rénovation de son bâtiment. Donc on lui permet de passer à l'acte de rénovation. Donc il y a un accompagnement complètement intégré à la plateforme, et cet accompagnement est réalisé par Arnaud qui est ici, qui est le conseiller InfoEnergie, et donc qui est le point d'entrée du dispositif de plateforme. On a un seul objectif au sein des plateformes. Alors pour vous situer un peu à Midi-Pyrénées, il y en a 4 actuellement. Donc vous avez sûrement entendu parler du chiffre global de rénovation au niveau national qui est de 500 000 logements, ça doit vous parler je pense. Décliné à Midi-Pyrénées, on doit rénover 23 000 logements en vitesse de croisière en 2017, et décliné par rapport au parc de logements du pays, on est à 500 logements par an. Alors 500 logements, ça ne fait pas beaucoup sur la masse des logements qu'il y a en France, puisqu'on est sur 33 millions de logements, et on parle de 500 ici, donc le ratio est quand même bien moindre. Mais sachez qu'actuellement, on rénove sur le pays toulousain à peine 200 logements, et de manière peu efficace. Voilà. Donc nous, on espère aller à 500 logements, de manière très efficace, et notre objectif, c'est de faire un facteur 4 comme le fameux facteur 4 en 2050, c'est-à-dire diviser vos consommations d'énergie par 4. Voilà. Troisième item pour la plateforme, c'est la mise en relation des propriétaires et des acteurs professionnels. Alors, comme disait Benoît, on a 900 entreprises du bâtiment sur le pays. Actuellement, on a 100 entreprises RGE, reconnues garants de l'environnement, donc qui ont une labellisation reconnue au niveau national, qui a été mise en place par l'ADEME en 2011. Et sur ces 100 entreprises du bâtiment RGE, on en a 25 qui sont partenaires de la plateforme. Voilà. Donc notre rôle, à nous aussi, au niveau du pays, c'est de persuader les entreprises du bâtiment du pays qui sont qualifiées de devenir partenaires de la plateforme. En gros, ce qu'on dit, c'est qu'un euro investi sur le territoire, au sein de la collectivité, nos impôts à tous, doit avoir un effet de levier en matière d'économie sur le territoire. Donc c'est notre rôle aussi de faire ce levier économique sur le territoire. Donc, on est lauréat en 2014 de l'appel à projet, donc évidemment sur ce projet, sans le soutien de l'ADEME, voilà, on n'aurait pas pu monter la plateforme. Voilà. Alors, je passe vite, c'est en gros l'accompagnement du particulier, donc voilà, il y a cette étape. Hein. Donc là, vous rencontrez alors cette étape qui alternée d'interventions publiques et privées. En fait, les interventions publiques, c'est nous au pays qui les menons, et les interventions privées, ce sont les bureaux d'études qui font les diagnostics, ou les professionnels qui interviennent chez vous pour rénover. Voilà. Donc il y a alternance entre public et privé, on peut dire que c'est un partenariat complet entre le public et le privé. Donc cette étape dans la rénovation, ou dans le parcours du particulier au sein de la plateforme, ben, déjà, il prend rendez-vous avec Arnaud, conseiller Info Énergie, et on fait un premier aiguillage financier, en fonction des ressources et des revenus fiscaux de référence. On vous garde soit au sein de la plateforme, ou alors on vous aiguille vers votre partenaire, notamment l'ANA, Agence Nationale de l'Habitat, qui eux sont spécialisés dans les ressources modestes et très modestes. Donc pourquoi on fait cet aiguillage? Parce que sur ce système-là, on veut absolument être efficace et ne pas garder les gens si ça ne dépend pas de notre compétence. Donc on vous fait gagner du temps en fait en faisant ce premier aiguillage en amont. Ensuite, une fois que vous êtes rentré dans la plateforme, eh bien, on vous accompagne jusqu'aux travaux. On vous accompagne aussi pour les diagnostics à domicile, le DPE, vous connaissez, la fameuse étiquette énergie. On vous accompagne dans le choix des entreprises, dans l'analyse des devis, dans l'aide au montage du dossier financier, pour vous permettre de monopoliser le maximum d'aide possible, crédit d'impôt, éco-prêt, enfin il y en a beaucoup. Et on vous accompagne aussi dans la réalisation des travaux et jusqu'au suivi des consommations. Ce qu'on va développer en 2016, c'est, on travaille avec le lycée de Muret là-dessus, un kit de métrologie qu'on sera capable d'aller mettre chez les gens, chez l'habitant, pour, de manière autonome, avoir des retours sur l'évolution de la consommation des bâtiments et que le particulier aussi puisse voir l'évolution de sa consommation par rapport à sa situation avant travaux. Voilà, donc cette étape principale. Donc dès que vous rentrez là, si vous êtes éligible au dispositif, hop, on vous mène jusqu'au suivi des consommations. Alors voilà, on a un site internet ressources qui est en ligne depuis 2 mois maintenant, qui permet la seule volonté, la seule efficacité ou la seule... Le seul objectif du site, c'est de mettre en relation les particuliers et les professionnels. Donc, ce site-là s'appelle Objectif Réno. Vous pouvez y aller d'ores et déjà, puisqu'il est opérationnel. Il vous permet de faire un diagnostic de manière autonome. Si vous souhaitez diagnostiquer votre logement, sortir l'étiquette énergie, vos possibilités d'économie d'énergie, vous pouvez y aller d'ores et déjà. Ça vous permet de bénéficier d'un conseil. Voilà, donc ça vous sort l'étiquette énergie. Plus important aussi, ça vous symbolise le coût de l'inaction, c'est-à-dire la facture d'énergie que vous allez payer dans 20 ans si vous ne faites pas de travaux, donc c'est la courbe de dessus. Et suivant les travaux, ça vous symbolise aussi le coût énergétique après travaux dans 20 ans. Donc ça vous donne des éléments financiers, et on sait que dès qu'on parle au portefeuille, ça va beaucoup mieux, ça permet d'ouvrir les choses. Ensuite, ça vous permet aussi de bénéficier d'un conseil, donc Arnaud qui est là, est capable de vous prendre rendez-vous, de vous donner conseil par téléphone ou par mail, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Et aussi, vous pouvez directement aller contacter des professionnels RGE du territoire qui peuvent vous faire des devis pour les travaux. Voilà, je continue et je pense que... Voilà, c'est ça. Et vous avez aussi, dès que vous êtes inscrit dans la plateforme, un espace personnel sur lequel vous avez toutes vos données, les devis, les factures, tout ce qui vous permet de gérer votre projet de rénovation. Je finis par ça. Ce qui est important, c'est de savoir qui contacter si vous avez un projet de rénovation. Donc, oula, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un bug. l'écologie. Vas-y, tu passes. Ouais, je touche à rien.
Parce qu'ils sont pas encore sous LibreOffice, mais bah, c'est pour y venir.
Il y a un truc spécial ?
Bah, il doit y avoir un truc qui peut planter.
Ah, c'est les animations.
Alors, ah, d'accord, c'est les animations. Bon, en gros, je vais le faire de vive voix.
C'est là ?
Oui, c'est là. Ouais, c'est ça. Ah, c'est ça ? Mais pas cela, c'est les animations. Ouais, comme ça. Voilà, ce qui est important de savoir, c'est que... Ça fait rien. Si vous voulez contacter la plateforme de rénovation, donc il y a un seul numéro de téléphone, c'est le 05 61 97 30 80. Vous avez à l'entrée des flyers qui vous permettent d'avoir les coordonnées. On est situé 31 chemin de Saint-Laurent, zone d'activité de Nodon, donc c'est la DDT, pour ceux qui connaissent, pour les carbonés qui connaissent. Et donc vous pouvez contacter Arnaud, qui est ici, si vous avez un projet, donc il vous fera un premier vernis par téléphone. Et puis, vous pouvez le rencontrer pour devenir partie intégrante de la plateforme et on peut vous accompagner dans votre projet de rénovation. Donc, surtout, n'hésitez pas à venir nous voir. Voilà, j'ai terminé, merci.
Bien, je vais voir s'il marche, bon, très peu. Je vais essayer de parler fort. Nous vous remercions pour la conférence. J'aurais besoin de ce micro pour les questions. Et maintenant, le moment des questions. Est-ce que vous avez des questions à poser aux différents conférenciers ?
Avez-vous des questions ?
Est-ce que tu peux passer au fond, tout au fond, là-bas, une première question et ensuite Bernard.
Ça va chauffer. Ils économisent l'énergie, je pense, c'est ça, hein. Je voudrais savoir comment Météo France sera associée à la COP21. Première question. Et est-ce que vous êtes sollicité en tant qu'organisme pour intervenir pédagogiquement dans les différents, dans les différentes filières que sont le bâtiment, l'agriculture, la santé, enfin tout ce qui est impacté par le changement climatique. Donc à quel niveau êtes-vous sollicité sur ces deux aspects ?
Alors oui, nous sommes évidemment sollicités, nous sommes fortement impliqués.
Je vais courir.
Alors Météo France, parce que vous connaissez le service météorologique qui tous les jours diffuse de l'information donc sur sa relation avec son ministère de tutelle, qui est le ministère d'écologie, du développement durable et d'énergie. On est évidemment en première ligne avec le CNRS et les laboratoires de recherche qui travaille sur le climat pour cette COP21. Mais on est en appui, c'est-à-dire que les scientifiques sont là pour essayer de faire ce que je fais ce soir, d'éclairer les élus, d'éclairer les décideurs économiques, d'éclairer nos concitoyens, d'accompagner les démarches comme celle qui est exemplaire et qui est menée là dans le pays du Sud Toulousain. Donc oui, on sera présent à la COP, mais... Par ailleurs, on fait attention à rester à notre place. La COP, c'est 40 000 personnes qui viennent déferler sur Villepinte, là à Paris, ou le parc des expositions, ou je ne sais où d'ailleurs. C'est quelque chose qui nous dépasse complètement. Donc on apporte nos éléments, on en profite pour mettre le paquet sur le climat, renforcer les travaux qu'on voulait mener, etc. Mais... moi, j'ai très peur de, passez-moi le terme, mais de la gueule de bois, quoi. Or, en janvier 2016, après la COP, je peux vous dire qu'on a encore du pain sur la planche. Il y a des questions scientifiques sans nombre qui sont posées. J'évoquais mes portes qu'on ouvrait et et on débouchait sur une nouvelle pièce où il y en avait de nouvelles à ouvrir. Il y a des questions qui apparaissent chaque jour. On doit améliorer le diagnostic d'évolution du climat. On doit être capable de prévoir l'évolution du climat sur des phénomènes à très fort impact sur notre pays. On pense à la métropole, on va penser aux épisodes Cévenol. C'est pas totalement par hasard que je vous montrais le Montégoal au début. Quel va être l'impact de tout ce réchauffement climatique sur des événements qui sont les événements qui sont au cœur de l'activité de Météo France chaque jour. On doit continuer, je l'ai assez évoqué, je pense, à observer la planète. Quels sont les systèmes d'observation qui aujourd'hui, il faut savoir qu'avec les réductions de budget, etc., on a une grosse pression sur nos différents réseaux d'observation. Il faut les rendre plus intelligents, plus efficaces. Et c'est une démarche qui est légitime parce qu'on a de nouveaux moyens, on a des satellites, on a des choses qui sont mesurées depuis l'espace qu'on n'avait pas avant. J'en profite juste pour dire, j'ai un de mes très bons copains, on a fait toute notre carrière ensemble. Il a commencé dans des laboratoires où on faisait de l'optique sur des tables en marbre qui faisaient la taille de cette pièce quasiment. Puis une fois de temps en temps, on ouvrait une petite lucarne et on visait le ciel. Ça, ce sont des radars à laser, des lidars. Eh bien, dans un an ou deux, on va en envoyer un sur satellite. Donc voilà, c'est 25 ans de travail sur un sujet donné. Pour mesurer quoi ? Ben pour mesurer ce que renvoient les petites particules qui sont dans l'atmosphère vers l'espace. Mesurer le vent, mesurer les aérosols. Je n'ai pas parlé d'aérosols, mais des poussières sulfatées, des suies qui sont dans l'atmosphère et qui contribuent à refroidir l'atmosphère, bon, etc. Donc nous, c'est ça notre boulot aussi principal. C'est de faire en sorte que demain, le prochain événement Cévenol soit bien prévu. Vous avez peut-être vu qu'on avait balancé de nouveaux systèmes de modélisation sur la France. On est à 1,3 km de résolution. Je peux vous dire que derrière ça, il y a de la physique, il y a de la technologie, il y a des systèmes de calcul avec des ordinateurs qu'il faut utiliser de façon la plus optimale qui soit. Donc voilà, Météo France, je ne dis pas qu'on crache dans la soupe. On sera présent à la COP, mais on ne sera pas visible. On soutiendra les activités françaises, on apportera des éléments à nos concitoyens. Mais on n'est pas là pour aller au-devant de la mêlée, dire « ouïouïou, voilà, on fait du climat hein ». On a autre chose de plus important à faire et on le fait. Quand je dis Météo France, je m'autorise à parler pour tous nos collègues de l'INRA, pour les agronomes, les hydrologues, etc. Voilà. On a des défis autrement plus sérieux que de s'amuser sur cette COP. Et pourtant, vous avez vu, on va faire un nouveau site, machin, avec nos résultats. C'est sûr que tout le monde veut se montrer un peu, mais je pense qu'il faut qu'on se montre en pensant à la suite et en construisant les programmes de recherche, d'observation et les programmes opérationnels aussi pour transférer cette information sur le climat vers le public. Et c'était la deuxième partie de votre question. Évidemment, oui, on est très très concerné et impliqué auprès des différents secteurs d'activité. On bute parfois sur une difficulté à rencontrer les interlocuteurs qui sont ceux qui ont des leviers pour agir. J'évoquais le problème d'agriculteurs qui, à leur échelle, nous disent « nous, on s'adapte tous les ans, tous les jours, on s'adapte en permanence, on a cette culture de la variabilité du temps, de la météorologie qui nous impose des conditions chaque jour, mais ce qu'on voudrait faire en réponse au changement climatique qu'on voit dans nos activités, on est un peu emprisonné dans des filières, parce que le lait pour le Roquefort, c'est... Il y a une AOC, hein, il y a une appellation d'origine contrôlée, il y a des spécifications qui sont très fortement ancrées et marquées et très strictes. On pourrait faire autre chose, on pourrait le faire différemment, mais on sortirait de l'AOC, et ça c'est compliqué. Donc ça veut dire qu'il faut travailler sur l'AOC. Quand je disais il faut le droit à l'expérimentation, il faut s'autoriser un peu plus de souplesse, c'est des réflexions de ce type. C'est en train de venir, de plus en plus, tous les secteurs sont en train d'y passer. Et je peux vous dire que l'industrie, enfin les milieux économiques, évidemment, qui ne peuvent pas faire l'impasse sur le futur à ces échéances, qui sont des échéances de l'ordre de 2 ou 3 décennies, réfléchissent à tout ça. Mais on a encore besoin d'aller trouver les bons leviers et les bons interlocuteurs. Il y a une difficulté aussi, c'est que nombreux sont les acteurs qui vivent sur une lancée, qui ont fait leur richesse avec une activité, une façon de voir le monde et leur activité, Et ce qu'on leur explique, c'est qu'il faut un petit peu changer ça, bouger ça un peu. En même temps, on n'a pas la réponse. On ne peut que leur dire, attention, réfléchissez à, analysez vos vulnérabilités, essayez de trouver des solutions. On peut vous aider, on peut vous attirer l'attention sur le fait que si vous vous contentez de prendre une carte rouge vif de la France pour 2080 et que vous en déduisiez des évolutions de votre activité maintenant, bah vous vous plantez à coup sûr. Parce que d'abord, c'est du scénario climatique, hein, ça va dépendre de ce que le monde va choisir comme évolution. Et ensuite, vous avez à intégrer demain, après-demain, etc. Alors moi, j'aime bien les aphorismes à 100 sous. Je dis, mais pour vivre 100 ans, il faut vivre un an de plus, quoi. Et ces années de plus accumulées, c'est cette intégrale qui va faire les dizaines et les centaines d'années à venir. Voilà, donc c'est un exercice qui est extrêmement complexe de réfléchir à ce qu'on doit faire. Et bien malin, qui sait ce qu'il faut faire. Donc le boulot de Météo France, c'est service fournissant de l'information pour dans l'heure va-t-il pleuvoir, et dans le siècle, et toutes les échéances intermédiaires. Voilà, je suis un peu long, excusez-moi, je suis trop bavard.
Oui, une question plus prosaïque, certainement. On parlait de l'océan, de l'Arctique, de la fonte des glaces, et depuis quelque temps, on parle beaucoup du Perth-Mar Fox. Qu'est-ce que c'est, ça?
Alors,
prendre le micro.
Ben, je peux le prendre, mais... Ah oui. Merci. Le permafrost, ce sont des sols qui, en région arctique, qui restent gelés en permanence. Donc, le permafrost a emmagasiné beaucoup de... Enfin, a stocké de la biomasse sous forme congelée, des gaz sous forme congelée. Et si vous réchauffez... Le pôle Nord est une région, enfin l'Arctique est une région qui se réchauffe beaucoup plus sur le siècle, là, sur ma cartographie. Le pôle Nord s'est réchauffé de façon plus importante. On arrive maintenant à décongeler ces sols-là au cours de l'année. Et on voit des choses, enfin on sait qu'il y a des quantités de méthane qui sont les gaz de biomasse qui sont prisonniers et qui vont être libérés. Alors on ne sait pas dans quelle proportion, quel volume, quel est le stock, est-ce que ça va jouer ou pas, etc. Donc le permafrost, c'est ça. Permafrost, c'est le mot... c'est anglais ou allemand, enfin c'est un mot anglo-saxon. C'est le pergélisol, on dit aussi en français. Voilà.
Autre question ?
Bonsoir. Alors moi, c'est pas une question, c'est plutôt un constat. Enfin, déjà, j'ai beaucoup aimé votre présentation, enfin, vos présentations, messieurs. Le constat, surtout, c'est que sur une ville comme Carbonne de plus de 5000 habitants, ce soir, on se retrouve à une cinquantaine dans la salle, et notamment très peu de jeunes. Voilà. Moi, c'est quelque chose que je côtoie aussi pour donner quelques cours de temps en temps sur un domaine un petit peu... parallèle, l'énergie solaire, qui a un petit peu rapport quand même. Je me rends compte que c'est un sujet qui ne mobilise pas les gens, en tout cas qui ne leur, ou qui ne leur parle pas, ou qui leur fait peur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que le travail que vous avez fait, je pense qu'il est connu à part, enfin, qu'il est connu et respecté à part de quelques ébouriffés du ciboulot dans le monde, mais je pense que tout le monde est d'accord pour reconnaître les travaux que vous avez fait toutes ces années. Donc le constat, il est là. Maintenant, c'est vrai que ce constat-là, je pense que les gens ont du mal à se l'approprier, et notamment les jeunes. Voilà. Alors, les jeunes, moi, j'ai pu constater qu'ils étaient conscients, ça c'est clair, c'est-à-dire que les termes, ils les connaissent, qu'ils savent ce que c'est le changement climatique, ils savent que demain, ça aura un impact. Maintenant, visiblement, ils ne sont pas assez conscients pour venir... mercredi soir, alors c'est sûr que c'est une soirée de Coupe du Monde de rugby, c'est clair. Pourtant, j'aime le rugby, mais ils ne sont pas assez conscients pour venir mercredi soir à 20h à Carbonne. Ils ne sont pas assez conscients pour aller voter et faire en sorte que nos politiques aient un réel impact et par exemple, interdisent qu'on ait exploité les ressources pétrolières du pôle Nord, par exemple. Donc, à un moment donné, il faudrait que nous, tous qui sommes dans la salle, on arrive à sensibiliser les gens qui sont autour de nous. Ça, c'est à notre échelle, c'est notre rôle à tous. Vous, votre rôle, c'est de sensibiliser nos chers politiques pour qui on vote, on essaie en tout cas. Notre rôle à nous, je pense, c'est essayer d'agir nous au quotidien et puis de porter ce message-là et peut-être de pas le dramatiser, mais en tout cas de faire en sorte qu'il soit accepté par tous et qu'on arrête de faire d'autruche. Je crois que c'est le principal problème.
Oui, ben bravo. Moi, je bois vos paroles et j'y souscris totalement. On a un devoir d'intelligence. On doit dire les choses autour de nous, on doit en parler quand on a des éléments. Mais une fois encore, on a chacun une partie du puzzle. Vous parlez d'énergie renouvelable, c'est au cœur du sujet. Alors c'est sûr, on dit qu'il faut positiver, il ne faut pas dramatiser. Il y a des solutions, en tout cas il y a des choses à faire. Et l'important, c'est de regarder tout ça avec le plus de lucidité qui soit. Il y a un effort de formation, d'information. Alors là, pour le coup, c'est la pédagogie répétée et remettez l'ouvrage sur le métier. Il faut aller vers les jeunes, il faut amener les jeunes à s'intéresser à ces questions-là. Il y a plein d'autres pressions sur nos sociétés, il y a plein d'autres pressions sur les jeunes. Celle-là est sérieuse, mais c'est vrai qu'ils ont d'autres préoccupations, ils ont d'autres questions au quotidien, comme nous tous, comme chacun. Mais quand je dis faut faire appel à notre intelligence, ben, il faut regarder au loin. Moi, j'aime beaucoup travailler avec les forestiers, parce que les forestiers ont cette culture. Ils pensent, ils aiment la forêt, mais ils pensent aussi à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Et je pense que c'est ça notre devoir aussi, à chacun, quel que soit notre âge. Donc, tant mieux, je trouve que l'assistance est fournie. J'ai parfois fait avec beaucoup moins, parfois avec un peu plus. Mais voilà, moi j'y vais avec bonheur et puis j'y vais en voyant aussi, on s'était vu il y a, je sais pas, deux ans, et ben je trouve que les programmes deviennent plus efficaces dans l'esprit. Hein, ce qui vous a été présenté là, il y a 2 ou 3 ans, ben, il y avait du conseil, c'était un peu virtuel. Là on rentre dans le gras, c'est-à-dire que j'apprécie de voir ça parce que j'ai essayé de rénover, j'ai essayé d'y passer, et puis finalement, il a fallu que je me débrouille tout seul. Je ne sais pas si c'était bien, pas bien. Là, il y a des efforts, des volontés qui sont mises en place. Tout ça, ça coûte de l'énergie, du temps, des moyens, de l'argent, mais il y a quand même une volonté. C'est à nous de l'encourager aussi. Ça passe par l'action du consommateur, ça passe par l'action de l'électeur, ça passe par l'action du formateur, du parent, du grand-parent. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Hein. Mais ne vous inquiétez pas, hein, on va y arriver. Hein.
Je voudrais juste ajouter, faire une précision par rapport à ce que vous disiez concernant le nombre réduit de jeunes. Je n'imputerai pas ça uniquement au thème de ce soir. C'est une question que l'on s'est posée et que l'on se pose dans le cadre de la pipe en vol. On a remarqué lors des conférences qu'effectivement, il y avait peu de jeunes. Et on essaye de résoudre ce problème, de répondre à ceci. Donc il y a effectivement ce que vous avez dit, mais il y a aussi la façon dont nous organisons les conférences qui pêche quelque part. Et on doit là aussi modifier les choses. D'autres questions ?
Non, mais les jeunes, ils ont des choses formidables. Il y a... Sur ma première planche, là, avec tous les trucs, il y avait en bas à gauche, il y avait une bande dessinée qui vient de sortir. Bon, c'est super, c'est génial. Et c'est sûrement ça le véhicule pour certaines catégories de jeunes, plus que moi de m'écouter raconter mes trucs. Donc voilà, l'important c'est que ça diffuse et que ça passe par tous les canaux. Mais croyez-moi, vous avez encore quelques semaines, là, vous allez en manger plus jusqu'à la nausée quoi, du climat. C'est ça le problème aussi. Hein. C'est ça le problème.
Y a-t-il d'autres questions ?
Vous avez parlé de l'habitat.
C'est pour vous ?
Oui, vous avez parlé de l'habitat qui n'est pas du tout adapté, mais quelle solution ? Ça paraît insurmontable.
c'est pour vous.
Est-ce que vous pouvez préciser votre question, s'il vous plaît? Est-ce que vous pourriez préciser votre question? Parce que si on parle de logement pas adapté, nous on l'entend dans deux sens. On l'entend par rapport au confort d'hiver et par rapport au confort d'été. C'est-à-dire qu'en hiver, par exemple, on a des logements qui sont mal isolés ou pas assez isolés, tout simplement. Donc, consommation énergétique, émissions de gaz à effet de serre, amplification des émissions au niveau local. L'habitat individuel au niveau du pays sud-toulousain, c'est 16% des émissions de gaz à effet de serre. C'est un des secteurs sur lesquels on a, entre guillemets, la même pour agir, puisque ça passe par des solutions qui sont plutôt simples et plutôt connues, à savoir de les mettre en ordre, dans le bon ordre. C'est pour ça qu'on propose la plateforme de la rénovation. L'autre volet, c'est le confort d'été. Monsieur le Dantin l'a précisé, on va avoir des étés avec des plus 6 degrés en local. Le sud toulousain est un des territoires de Midi-Pyrénées ou de la future grande région qui sera les plus touchés. Donc on parle d'adaptation au changement climatique et là ça passe par le traitement du logement, par exemple avec des systèmes d'isolation bénéficiant d'inertie. C'est-à-dire qu'on va essayer de conserver dans le logement une température qui soit plus faible qu'avec une absence d'isolation ou avec de l'isolant conventionnel. Est-ce que j'ai répondu à votre question?
Mais ce qu'il y a derrière votre question, c'est que évidemment, on a eu quelques décennies pendant lesquelles on a construit un peu à tort et à travers. Alors moi, je suis capable de dire qu'on a construit à des endroits, enfin tout le monde le sait, à des endroits où on n'aurait jamais dû construire. Et en fait, le changement climatique, ça nous impose une pression supplémentaire pour faire des choses, enfin ou corriger des choses qu'on aurait déjà dû faire, quoi, en fait. C'est pas normal de construire dans des zones dont on sait pertinemment qu'elles sont à 6 mètres sous le niveau de la mer. Alors on peut l'accepter, mais c'est une analyse de la valeur qu'il faut faire. Dans ce cas-là, il faut informer les propriétaires qui achètent à cet endroit-là. Il faut faire des maisons avec une trappe pour sortir en haut du toit, etc. Si vous voyez à quoi je fais référence. Bon, Xynthia, c'est pas le changement climatique. Xynthia, c'est la cupidité et l'incurie qui mènent à ça. Bon, ben, c'est quelques décennies qu'il faut corriger. Alors évidemment, ça ne va pas se faire en 15 jours et ça va coûter un petit peu. Mais ce que je n'ai pas dit, c'est que sur cette question de changement climatique, les économistes sont tous d'accord. Le coût de l'inaction, il est plus élevé que le coût de l'action. Et évidemment, ce n'est pas tellement à notre échelle individuelle, c'est à l'échelle des pays. Donc les réflexions se portent sur les mécanismes pour accompagner. Donc des mises en œuvre techniques, des aides et des aides financières. Mais est-ce que ça passe par le crédit d'impôt? Est-ce que ça passe par les collectivités? Est-ce que ça passe par des dotations X ou Y? Moi, je ne sais pas vous dire, je ne suis pas compétent. Les gens cherchent là-dessus, les économistes cherchent là-dessus. Voilà. Mais il faut toucher à tout. Il faut réduire les émissions et il faut adapter en particulier notre habitat. On pourrait parler des transports aussi, enfin dans le bilan. Les transports, on a construit, en particulier en Midi-Pyrénées, on a construit de façon très dispersée. Et ben aujourd'hui, il faut payer du pétrole et donc on injecte du carbone dans l'atmosphère. Donc on sait qu'à une échelle de temps qui est de l'ordre de celle sur laquelle on urbanise les villes, on construit les villes, on sait qu'on va essayer de regrouper un peu les populations. Mais ça demande des infrastructures, ça demande des transports en commun, ça demande... Voilà, c'est une nouvelle façon de... En tout cas, c'est une évolution de la façon de penser, dans plein de domaines.
Oui, mais au niveau du transport, là, on va à l'envers. Là, on vient de mettre en place je ne sais combien de...
Nous sommes d'accord.
D'autobus et de cars, plutôt que d'utiliser les voies ferrées qui existent depuis ce temps. Desservait tous les villages.
Justement, en termes de transport, là, je voudrais bien que Guy et Benoît nous parlent du prochain rendez-vous au marché de carbone. Et plus généralement, donc, on est ici un certain nombre d'individus et de ménages. Moi, je me pose surtout la question, non pas que je veuille me défausser, mais ou rejeter la responsabilité sur d'autres, mais que font les industriels ? Parce que les gaz à effet de serre, ils ne sont pas uniquement émis par les particuliers. Et la grosse masse, quand même, de tout ça, c'est les industriels. Voilà.
Là, je vous avoue que je ne sais pas trop quoi répondre, du coup. Oui, effectivement, les industriels sont, entre guillemets, les principaux émetteurs de gaz à effet de serre, mais...
Non, ça ne marche pas. Non, je crois que ça ne marche pas. Couleur orange, hein.
Je disais simplement que c'est assez difficile pour moi de faire une réponse à ce niveau-là parce que je ne suis pas un spécialiste de la question. Je ne sais pas si vous, monsieur Lambert,
vous êtes intéressé. Je suis spécialiste de rien et de tout. Moi.
Après, aujourd'hui, les industriels, effectivement, font partie des émetteurs, mais in fine, c'est pour répondre à un besoin qui est le besoin du consommateur. Donc, je ne sais pas s'il faut stigmatiser forcément... un type d'acteur ou un autre, mais c'est plutôt un effort.
En fait, tout ça, ça va revenir au prix de l'énergie. Ça va. Ah, ben, bonjour, bonsoir. Ça va revenir au prix de l'énergie, en fait, et à mettre un prix sur le carbone. Donc, les industriels intègrent ça dans leur programmation économique, leur prospective, et je peux vous dire qu'ils réfléchissent. Le court-termisme qui consiste à maintenir les activités, à gagner de l'argent, est évidemment important dans leur réflexion, mais ils ont également une vision un petit peu plus long terme, et ils anticipent une évolution sur le prix du carbone qui va s'imposer. On ne sait pas encore comment ça se met en place, on a vu qu'en France on a essayé... Il y a eu des tentatives au niveau international de marché du carbone. Bon, tout ça s'est remis sur la table et c'est ça l'enjeu de la conférence sur le climat à la fin de l'année. Quand le carbone sera... les économistes sont tous d'accord, il faut que la tonne de carbone soit de l'ordre de 50 euros. Voilà. Donc quand on aura sur chacune des activités industrielles un chiffrage de ce que ça coûte en plus, eh bien, il y aura des ajustements qui se feront par l'économie de la chose. Mais tout ça devront être surveillés, régulés, avec des transferts entre le nord et le sud, etc. etc. Il ne s'agit pas d'aller acheter des droits à polluer en s'installant dans des pays du sud où on échappera à tout contrôle. Donc tout ça demande une organisation qui va de notre micro-échelle jusqu'à l'échelle internationale, intergouvernementale. C'est pour ça que l'exercice n'est pas simple, mais je pense que ça bouge vraiment, ça bouge véritablement. Et soyez confiants, il va se passer des choses. Quoi. Je ne sais plus qui avait posé la question, mais je crois que c'est la dame qui est sortie. Mais...
Je pense qu'on va avoir une dernière question.
Je voulais rebondir effectivement par rapport à l'intervention précédente. Quand on a travaillé sur l'état des lieux du schéma régional climat air énergie et qu'on a fait le point sur les émissions de gaz à effet de serre et les consommations énergétiques, j'ai presque envie de dire malheureusement, ce n'est pas l'industrie qui consomme le plus et qui produit le plus. Pourquoi je dis malheureusement ? Parce qu'effectivement, c'est le signe d'une moindre industrialisation de notre région de Midi-Pyrénées. Ce que nous n'avons toujours pas déterminé, qui est important aussi surtout dans notre territoire rural, c'est le poids des émissions de gaz à effet de serre générées par l'agriculture. Ils sont en train d'y travailler, on devrait avoir prochainement les chiffres et donc les engagements que le monde agricole prendra. Mais actuellement, alors je n'ai pas les chiffres en tête, Benoît, mais je sais que le poids des consommations énergétiques de l'industrie en Midi-Pyrénées est vraiment le dernier. C'est-à-dire on a le transport, on a le résidentiel tertiaire, on a vraisemblablement l'agriculture, même si on n'a pas tout encore, tous les chiffres définitivement, et l'industrie. Voilà. Alors c'est en même temps, c'est pas rassurant, quoi, malgré tout. Et aussi pour les entreprises qui restent, parce qu'il nous en reste quand même, ils ont fait de gros efforts effectivement sur ces sujets-là. Et pour des raisons sûrement que nous partageons tous, et surtout pour des raisons économiques, parce qu'effectivement, s'ils font baisser leur consommation, leur modèle économique fonctionne mieux. J'ai pas plombé l'ambiance, j'espère. Elle me souffle. Benoît, tu n'as pas été à la hauteur. Parle du 8 octobre, et Guy, et raconter ce qu'on va faire au marché à Carbone, voilà que...
D'accord, mais c'était ça. J'avais compris le début de la question, puis après la finalisation, je me suis dit, il y a quelque chose qui...
Non, simplement, le 8 octobre prochain, pour la fête de l'énergie sur le marché à Carbone, il y aura un stand animé par une structure qui s'appelle Ludique Énergie. Donc l'idée, c'est de toucher l'habitant, le concitoyen, qui vient traditionnellement sur le marché par le biais d'une animation qui soit totalement différente des animations que l'on peut faire classiquement sur l'énergie et sur le climat, avec une entrée tout à fait ludique et didactique. Donc c'est gratuit, il y a des vélos, vous pouvez aller pédaler, vous allez produire un petit peu d'énergie. Voilà, c'est très sympa.
Bien, je crois qu'on va passer à la troisième partie de la soirée. Et nous remercions, oui.
Est-ce que j'aurais pu témoigner de quelque chose à propos de la plateforme?
Mais bien, bien sûr.
Il se trouve que, par hasard, la semaine dernière, j'ai commencé à réfléchir sur l'isolation de mon toit.
C'était dans la perspective de la conférence?
Pas du tout. C'est pour ça que c'est amusant.
Je savais absolument pas que Arnaud serait là pour parler de la plateforme. Et donc, je souhaite vraiment attirer votre attention sur cet outil qui est fait par le PIG toulousain. Et j'ai pu constater que j'en suis qu'à l'étape 2 ou à l'étape 3. Mais ça fonctionne et il y a vraiment un appui tout à fait efficace, je pense qu'il sera au terme, mais ça commence bien. Donc voilà, donc localement, il est possible de faire des choses, et localement, nous avons une institution qui a mis au point un système, et ça vaut le coup de le faire remarquer. C'est tout.
Merci beaucoup. Et nous vous convions, ainsi que les personnes présentes, à passer à l'auberge espagnole dans le hall d'entrée.
Le résultat du match.